Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Ce qu'on a fait en Algérie était un instrument formidable pour la période de libération nationale. Mais le FLN dans le Vietnam, on a 35. Le FLN, c'est une énorme chose, une énorme école, mais qu'elle a terminé sa fonction. Dès l'instant où nous sommes rendus, disons, indépendants, elle a terminé sa fonction.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, voici maintenant près d'un mois Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne depuis 1999, qui ne s'était pas exprimé en public dans le cours de l'année dernière, a fait annoncer par son premier ministre, en restant lui-même muet, qu'il serait candidat à un quatrième mandat lors de l'élection du 17 avril prochain. Son état de santé est fort précaire. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en avril 2013. Il n'a confirmé son intention personnellement qu'en intervenant quelques secondes d'une voix très faible à la télévision au début de mars. Et si personne ne semble douter en Algérie qu'il sera réélu, cette séquence fantomatique donne à chacun, dans le pays et ailleurs, le sentiment d'un crépuscule angoissant. Bouteflika a été ministre pour la première fois dans le gouvernement d'Ahmed Ben Bella, tout juste après l'indépendance, voici 52 ans, et il a détenu le portefeuille des affaires étrangères de 1963 à 1979. C'est dire que son parcours politique couvre toute la durée de l'histoire de l'Algérie depuis la fin de la colonisation française. Il se présente au titre du FLN, le Front de Libération Nationale, ce parti qui a surgi de la guerre et qui n'a jamais depuis lors quitté le pouvoir, abrité le plus souvent derrière l'armée. Ce FLN, quand bien même il a résisté aux contagions récentes des printemps arabes, ce FLN est-il donc à bout de souffle, comme semble l'être son héros épuisé? Pour tâcher de répondre à cette question, il s'impose de revenir sur un demi-siècle de son histoire, parmi les douleurs, les violences et infiniment de sang répandu. La complexité de cette chronique, vue de France, paraît souvent, sans qu'on s'y résolve, défier l'intelligence. Un défi que nul ne peut mieux affronter que Benjamin Stora, professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'Université de Paris 13 et à l'INALCO, qui est mon invité ce matin. Avec lui, en direct du Salon du Livre, comme chaque année à la même date, nous allons tâcher de démêler cette complexité jusqu'à l'aboutissement d'aujourd'hui. Querelle de pouvoir à l'infini, sous la fausse apparence de la pérennité d'un seul parti, rôles antagonistes de l'armée et de l'islamisme, crise récurrente du monde agraire, prégnance du pétrole, poids croissant des entrepreneurs industriels, place des intellectuels et des journalistes souvent martyrisés mais toujours vaillants, amnésie et amnistie, voilà bien des fils à démêler. En une heure seulement, un vrai pari. Eh bien, nous allons l'affronter. Et d'abord l'extrait d'un discours d'Abderrahmane Farès, qui a été le président de l'exécutif provisoire algérien, tout juste après les accords d'Évian, et qui s'exprimait ici, sur Paris Inter, le 7 avril 1962.
Les radios, les journaux du monde entier sont médusés devant le calme, la discipline, la maturité du peuple algérien. Il faut que l'on sache aujourd'hui, d'une manière claire, précise, non équivoque, que cette maturité n'est pas celle de la peur ou de la résignation devant les événements sanglants qui se déroulent encore, mais au contraire, la farouche volonté de tout un peuple de respecter, dans l'esprit et la lettre, les accords signés par tous les dirigeants sans exception de sa révolution. Il faut que l'on sache que malgré tous les calculs machiavéliques, toutes les conceptions avouées au culte que nous connaissons bien, il n'y aura jamais de la part du peuple algérien de Saint-Barthélemy. Il faut que l'on sache enfin que l'Algérie, comme l'espèrent encore certaines forces malfaisantes, ne sera jamais un Congo. Cette inébranlable volonté, le peuple algérien la tire de la profondeur des racines de sa révolution, véritable rouleau compresseur qui a définitivement balayé toutes les structures vétustes ou artificielles d'un passé à jamais révolu. L'Algérie nouvelle et fraternelle que nous voulons bâtir, nous en avons aujourd'hui, elle sera la même demain, la préfiguration vivante dans l'exécutif provisoire que j'ai l'honneur et la fierté de présider.
Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Bonjour au Salon du Livre. Cet extrait d'un discours de Farès laisse sur un sentiment un peu d'étrangeté quand il dit qu'il n'y aura pas de Saint-Barthélemy en particulier. Il évoque le Congo, pas de Saint-Barthélemy. Il y a eu dans ces 50 ans des Saint-Barthélemy, beaucoup de Saint-Barthélemy.
Effectivement, ce discours d'Abdelrahman Farès est très intéressant puisque d'abord c'est un personnage qui était modéré au temps de l'Algérie française, qui a rejoint le FLN en 1955. Et qui était plutôt dans la mouvance de Ferhat Abbas, c'est ce qu'on appelait un réformiste, mais qui s'est retrouvé à la tête de l'exécutif provisoire et qui très vite a été écarté du pouvoir après l'indépendance de l'Algérie en 62. Mais quand on écoute son discours, ce discours de l'après-accord d'Évian, tout de suite après, bien on est frappé, bien sûr, par à la fois ce qui s'est passé par la suite et puis ce qui ne s'est pas passé. Ce qui ne s'est pas passé, là, Farès avait raison, eh bien c'est la congolisation de l'Algérie.
Congo, c'est-à-dire, il faut rappeler que le Congo belge a été traversé de terribles dissensions très sanglantes après la décolonisation.
Tout à fait. C'était un peu la hantise des dirigeants algériens depuis 1960-61. C'était la partition du pays, la division, l'éclatement du pays. Et donc, ils voulaient absolument éviter la congolisation. Et cette préoccupation apparaît très nettement dans cette déclaration de Farès.
En particulier, éventuellement, entre les Berbères et les Arabes, ce qui restera une ligne de clivage durablement et qui réapparaîtra souvent.
Oui, on peut aborder cette question, mais pas simplement, car il y avait des régions et du régionalisme, comme on disait à l'époque, et toujours aujourd'hui, par exemple, entre les gens de l'Ouest, les gens de l'Est, les gens des Aurès, les gens du Mzab. Et donc, il y avait cette éventualité, possibilité, vécue comme une catastrophe par les dirigeants algériens, qui était celle de la séparation et division du pays.
Donc, ça n'a pas eu lieu. En revanche, les Saint-Barthélemy.
En revanche, la violence, en revanche, effectivement, entre guillemets, les Saint-Barthélemy, là, après l'indépendance, se sont effectivement multipliés. On pourra citer très vite, parce qu'on ne pourra pas tout dire dans l'espace d'aujourd'hui. Dans le
presque
temps
tout, presque tout.
Presque tout, absolument. Mais il y a eu, on le sait, après l'indépendance et au moment de ce passage très difficile, il y a eu bien les enlèvements d'Européens à Oran, le 4 et 5 juillet 1962, les massacres de Harki qui se sont déroulés dans l'été 62, et puis les affrontements entre Algériens, c'est-à-dire entre, par exemple, le GPRA, qui fait son entrée triomphale dans Alger au début du mois de juillet, mais
gouvernement provisoire de la République algérienne,
et puis il y a l'armée des frontières dirigée par Boumediene dans un accord politique avec Ben Bella et qui va s'affronter à ce GPRA, et puis il y aura d'autres affrontements encore à l'intérieur même des wilayas qui vont s'affronter très durement dans l'été 62. Il y aura plusieurs centaines de victimes.
Mais quand on entend parler de Saint-Barthélemy, on peut aussi penser à la dramatique guerre civile des années 90. Vous citez dans un de vos livres un texte de Camus, dans le premier homme, ce livre posthume qui est paru en 1994, le plus fort de la guerre civile algérienne, un texte qui m'a frappé. Comme si l'histoire des hommes, cette histoire qui n'avait pas cessé de cheminer sur l'une des plus vieilles terres en y laissant si peu de traces, s'évaporait sous le soleil incessant, avec le souvenir de ceux qui l'avaient vraiment faite, réduite à des crises de violence et de meurtre, des flambées de haine, des torrents de sang vite gonflés, vite asséchés, comme les ouèdes du pays. » Fin de citation.
Très beau texte, bien sûr, de Camus, paru en 1994, bien longtemps après son décès, mais au moment même où se déchaînait la violence en Algérie. C'est cette coïncidence extrêmement troublante, d'ailleurs, entre la publication de ce dernier livre de Camus et puis ce déchaînement de violence en Algérie. Et on voit bien à travers ce qu'il dit qu'effectivement, le sang, les flaques de sang sèchent plus vite au soleil. Donc on a le sentiment que, dans le fond, l'histoire peut continuer à s'accomplir sans violence apparente, mais en fait, c'est pas parce qu'elle sèche plus vite au soleil qu'elle n'existe pas. Et elles existent et elles laissent des traces qui, quelquefois, ne s'effacent pas tout de suite et reviennent.
Bien, ouais. C'est cette réflexion sur les traces, précisément, que nous allons tâcher de développer pendant notre conversation. Benjamin Stora, vu de France, on a parfois éprouvé le sentiment que l'Algérie ayant eu tellement de place dans la vie collective entre 1954 et 1962, ayant ébranlé si profondément la société chez nous, il y a eu comme une tentation de ne plus y penser, comme si l'Algérie nouvelle s'éloignait des préoccupations. Vous qui en avez été l'historien, pas par choix, très jeune, à la rencontre entre votre militantisme, on peut le dire. Vous avez fait un très beau livre à ce propos, autobiographique, qui s'appelle « Les guerres sans fin », qui avait poussé votre chemin intellectuel entre votre militantisme et votre activité d'intellectuel, d'historien très, très rigoureux. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela ?
C'est effectivement le passage d'un monde à un autre monde. Pour les Français, la perte de l'Algérie a été très douloureusement ressentie, contrairement à ce qu'on croit, puisque l'Algérie, comme on le sait, était intégrée à la France. Et cette perte de l'Algérie française est comme une sorte, comme le disait Raoul Gérardet, un autre grand historien, une sorte de blessure narcissique dans le nationalisme français. Mais il fallait avancer, il fallait oublier, il fallait tourner la page, et il y a eu la magie, la force du verbe du général de Gaulle pour faire oublier l'Algérie. Et donc en France, pendant tout un temps, on a essayé d'oublier l'Algérie. Alors évidemment, du côté algérien, ce n'était pas du tout pareil, parce qu'il y avait là, avec ce passage d'un monde à un autre, la possibilité de créer l'État-nation, d'exister et de faire valoir les droits, disons, d'un nationalisme politique qui existait depuis fort longtemps. Et il y avait, à travers le passage de ce monde à un autre, effectivement, la joie des Algériens. Et derrière cette joie des Algériens, toutes les luttes de pouvoir entre les différents clans, bien sûr, qui se sont affrontés tout de suite au moment du passage à l'indépendance dans l'été 1962.
Il faut en effet restituer ces affrontements originels si on veut comprendre cette histoire d'un demi-siècle à quoi nous nous attachons ce matin. D'emblée, il y a au moins trois mondes. Les vilayas qui se sont battus sur place, l'armée de l'extérieur, notamment venue de Tunisie, et puis le FLN de France, sans compter le MNA, c'est-à-dire le mouvement nationaliste algérien de Messali Hadj. Vous avez fait la biographie de Messali Hadj, ce mouvement qui a été éliminé par le FLN, non sans de terribles et sanglants affrontements.
Oui, lorsque l'Algérie accède à son indépendance en 62, le MNA pratiquement n'existe plus. Il a été vaincu, notamment sur le plan physique, pendant cette guerre d'indépendance, et plusieurs milliers de victimes, plusieurs milliers de morts, dans cet affrontement terrible entre le FLN et le MNA. Mais les affrontements, cette fois-ci, après l'indépendance, vont exister entre les différentes fractions, courants, groupes, clans, à l'intérieur même du FLN.
Tout de suite,
dès le congrès de Tripoli à la fin du mois de mai 62, avant même l'indépendance.
Entre Évian et l'indépendance,
absolument. Il y a cette bataille, cette course de pouvoir qui va exister et qui va opposer, grosso modo, ceux qui sont à la tête de ce qu'on appelle l'armée des frontières, pour aller vite, avec la grande figure du colonel Boumdiène, qui a passé un accord politique avec Ben Bella. Et cet accord politique, d'ailleurs, à l'époque, par parenthèse, pour nous ramener à l'actualité, a été fait par l'intermédiaire d'Abdelaziz Bouteflika, à l'époque, qui était très jeune.
Vraiment insubmersible, cet homme-là.
Absolument. Et qui avait joué un rôle clé, un rôle majeur, dans la passation de l'accord politique entre Ben Bella et Boumdiène, accord qui avait été refusé par les autres, entre guillemets, chefs historiques, qui étaient Boudiaf, Aït Ahmed, etc.
Mais il faut rappeler peut-être qu'il y a une sorte de légitimité pour certains, une sorte de légitimité qui est née du fait qu'ils étaient dans un avion qui avait été détourné en octobre 1956, peut-être certains l'ont oublié, parmi nos jeunes auditeurs en particulier, détourné sous le gouvernement socialiste de Guy Mollet, et où il y avait Ben Bella, Boudiaf, Rider et Aït Ahmed.
Et l'Ashraf, qui était un grand cinquième. Le cinquième. Effectivement, donc ils étaient emprisonnés, mais le général de Gaulle en 61 avait laissé faire toute une série de discussions, négociations, tractations.
Il y avait fameux mots dans une de ses conférences de presse, on m'a posé, je crois, une question sur Ben Bella, alors qu'on ne l'avait pas posé.
Tout à fait. Donc il avait déjà laissé ouvert la porte et la possibilité d'un accord politique avec ses chefs historiques, de ce qu'on les appelait à l'époque, de la rébellion algérienne, comme on disait alors. Et cet accord politique, qui a été passé donc par l'intermédiaire d'Abdelaziz Bouteflika, a joué bien sûr un rôle extrêmement important hein, dans toute l'histoire de l'Algérie contemporaine, puisqu'ensuite, bien sûr, il y aura des affrontements, des péripéties dont on n'a pas le temps ici, bien sûr, de relater en détail tout ce qui s'est passé. Mais grosso modo, dans cet été 1962, un certain nombre d'opposants politiques qui avaient conduit cette guerre et cette révolution vont être écartés du pouvoir. Notamment Mohamed Boudiaf, aussi Naït Ahmed, Krim Belkacem, qui je prends les grandes figures, bien sûr, qui vont perdre politiquement, être écartés du pouvoir.
Plusieurs sont d'ailleurs assassinés.
Plus tard, Krim Belkacem a été assassiné en 1970 à Francfort. Mohamed Reda a été assassiné à Madrid en 1967. Donc il y a eu des éliminations effectivement physiques. Aussi, Naït Ahmed a été arrêté ensuite, en 1963, lorsqu'il y a eu ce soulèvement en Kabylie, notamment organisé par le Front des Forces Socialistes, qui est la principale force politique d'opposition algérienne, le plus vieux parti politique algérien qui existe toujours. D'ailleurs, aujourd'hui, le Front des Forces Socialistes. Et Naït Ahmed avait été condamné à mort et arrêté, puis gracié en 1964, 66, etc.
Dès ce moment-là, et ce sera le cas continuellement, le FLN joue un rôle de légitimation symbolique, même si le fait que c'est un parti unique aboutit à ce que les querelles, les oppositions, les rivalités de pouvoir se déroulent essentiellement à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, c'est Ben Bella qui émerge dans un premier temps avec l'appui de Boumediene, le militaire, et qui devient président de la République algérienne. Écoutez, pour entendre sa voix, il faut que nous entendions sa voix. Nous avons déjà entendu dans la pastille, comme nous disons, à l'intérieur du générique, sa voix, mais beaucoup plus tardive. C'est tiré d'une émission à voix nue. Nous entendrons un autre morceau tout à l'heure, une émission de France Culture. Écoutez, ce reportage, cette correspondance d'un journaliste, Rémi Champenois, à Alger, à l'occasion du premier congrès du FLN. C'est sur Interactualité, le 16 avril 1964. Chacun a alors l'impression que Ben Bella est solidement et durablement installé au pouvoir, ayant réussi à faire fi des oppositions qui se dessinaient contre lui.
Eh bien, cette première séance du congrès du FLN a été presque entièrement consacrée à un discours de M. Ben Bella, discours qui a duré près de 2 heures. Dans cette longue allocution, peu de choses que nous ne sachions déjà, car elle a été, en gros, une reprise des thèmes qui ont été abondamment développés dans les textes élaborés par la commission préparatoire. Cependant, certains commentaires du président de la République algérienne ont été remarqués. Il y a notamment cette définition qu'il a donnée du Congrès. Ce doit être un Congrès constitutif. Il n'est pas question ici de rouvrir les dossiers de la Révolution, de juger de l'action passée de ses dirigeants. Par conséquent, vous le voyez, l'opposition n'a rien à faire dans ce Congrès. Voici d'ailleurs dans quels termes M. Ben Bella a fustigé cette opposition.
Nous n'avons jamais prétendu être des faiseurs de miracles. Ce rôle ne nous sied guère. Elle revient de droit aux professionnels de la mystification. Tant que nous n'avons pas extirpé définitivement les racines du capitalisme, l'ennemi intérieur gardera une base d'appui. Nous devons donc combattre sans merci la contre-révolution représentée par des groupes tels que le FFS, le PRS et autres, ainsi que le libéralisme abstrait véhiculé par les couches moyennes et les intellectuels.
On a beaucoup remarqué aussi l'hommage rendu par M. Ben Bella à l'ANP. Vous savez en effet qu'il a couru ces jours-ci des rumeurs sur un désaccord entre le président de la République et le colonel Boumediene. On a même dit que ce dernier aurait remis sa démission ainsi que 4 autres ministres, ce qui n'a pas été confirmé ici.
Alors on voit Benjamin Stora déjà se dessiner l'opposition entre Ben Bella et Boumediene. Mais dans ce texte, on voit aussi l'ambiguïté plus large des rapports entre le FLN et l'armée. Et puis il faut que vous nous disiez aussi un peu ce qu'a incarné comme régime esquissé Ben Bella à ce moment-là.
Oui, ce texte est aussi intéressant par ce qu'il implique, ce qu'il induit d'environnement culturel et politique international des années 60, c'est-à-dire le tiers-mondisme politique, le nationalisme arabe et le fait que la gauche arabe, comme on disait à l'époque, était dans le camp socialiste. Il ne faut pas oublier qu'en 1964, au moment où Ben Bella prononce ce discours, c'est la visite de Che Guevara à Alger. en 1964. C'est dire l'ancrage de l'Algérie aujourd'hui comme une sorte de pays phare du tiers-monde de l'époque. Donc ça, c'est un élément très important qui va essayer aussi, sur le plan économique, de construire le socialisme avec, à l'époque, un maître mot qui était le mot autogestion. Donc il y avait à la fois la collectivisation des biens, des terres, ce qu'on appelait les biens vacants, qui étaient confisqués, notamment après le départ de la minorité européenne. Et donc on a aussi cet environnement sur le plan économique et social qui fait la part belle, au capitalisme, contre le capitalisme. Extirper les racines du capitalisme, donc contre l'économie de marché, pour instaurer une économie centralisée, une économie sur le modèle soviétique, en fait, purement et simplement. Et puis enfin, bien sûr, dans ce discours, il y a ces rapports compliqués entre le parti unique, l'armée, et le parti unique, puisque Ben Bella le dit lui-même dans son discours, il a éliminé ses rivaux politiques du FFS, d'Aoudossi Naït Ahmed, et du PRS, de Mohamed Boudiaf, qui est le PRS, le Parti de la Révolution Socialiste, qui avait été créé par Mohamed Boudiaf. Et donc il y a par conséquent l'installation, en fait, d'un régime à parti unique où le FLN, celui qui a conduit la guerre, où était présent un certain nombre d'hommes politiques de premier plan, eh bien, ce FLN de 1964, dans le fond, ne correspond plus à celui de la guerre, déjà, en 1964, puisqu'un certain nombre de grandes figures de cette période ont d'ores et déjà été éliminées ou ont d'ores et déjà disparu.
Bureau politique, centralisation, mais l'armée, hommage à l'ANP.
Mais l'armée, parce qu'effectivement, Ben Bella sait que sans l'armée, sans le fait de s'adosser à l'armée nationale populaire, c'est-à-dire l'ANP dirigée à l'époque par le colonel Boumediel, eh bien, dans le fond, il aura la plus grande difficulté à exercer le pouvoir. Et là, on va voir se dessiner effectivement ce qui va se passer l'année suivante, c'est-à-dire la destitution de Ben Bella par Houari Boumediel.
Juste avant le moment où on devait réunir à Alger une conférence internationale qui aurait cristallisé les tendances que vous venez de décrire, c'est-à-dire...
Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait deux événements. Il y avait deux événements à Alger au moment de ce coup d'État qui étaient intéressants, qui devaient se tenir.
Un nouveau Bandung, une nouvelle conférence de Bandung.
Il y avait effectivement la possibilité ou non de faire une conférence de l'OLAS, qui était en fait l'organisation révolutionnaire du tiers-monde, regroupant des mouvements de libération nationale d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Mais il y avait aussi, c'est une petite anecdote intéressante, le tournage du film La bataille d'Alger.
De Gilles Pontecorvo.
Et les Algérois qui se sont réveillés un matin du 19 juin 1965 s'imaginaient que, avec les chars dans les rues de la capitale algérienne, il s'agissait de la poursuite du tournage de Pontecorvo. Bien non, ce n'était pas le tournage du film de Pontecorvo, c'était un coup d'État, celui
j'espère
du 19 juin 1965.
J'espère que nous ne suggérerons pas ce type de procédé aux candidats dictateurs d'autres pays.
Oui, de se cacher derrière les tournages de films. Tout à fait.
Quoi qu'il en soit, Ben Bella est renversé et vu d'aujourd'hui, il est clair que la place de l'armée paraît essentielle.
Alors oui, effectivement, à partir de cette période...
Comme elle l'est aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est toujours aussi vrai ?
C'est à la fois vrai et dans une moindre mesure moins important. Enfin, c'est autre chose qui va se passer, mais avec effectivement le rôle toujours politique très grave, très important de l'armée.
Quoi qu'il en soit... Le certain désarroi du peuple algérien, une difficulté à comprendre est manifeste aux yeux des observateurs. Je vais vous donner à entendre l'interview d'un Algérien dans la rue. Ça, c'est Radio Trottoir, mais parfois c'est intéressant, qui est faite par Jean-Pierre Elkabbach, un journaliste de France Inter, le 8 juillet 1965.
Le gouvernement militaire en Algérie, ça ne va pas tenir. Hein. Le peuple, il ne va pas se laisser faire. Il n'aime pas se faire diriger à la baguette ou être... par des dictateurs, vous voyez. C'est qu'il a fait 7 ans et demi de révolution, c'était maintenant, hein. Il est fort, il ne veut pas se faire guider. Hein. Ben Bella, c'est autre chose. Hein. Ben Bella, c'est un type qui est très sincère, d'accord. Mais ce qu'il y a, il était vraiment entouré par certains types des égoïstes, vous voyez. Mais lui, personnellement, le peuple, il lui en veut pas. Il voulait faire une chose, d'accord, le socialisme, tout ça, mais il voulait réaliser ce qu'on ne pouvait pas faire dans 20 ans.
Est-ce que vous croyez qu'il peut revenir ?
Je pense pas.
Pourquoi le 5 juillet, il n'y a pas eu de manifestation et les gens ont été très calmes ?
Là, heureusement qu'il n'y a pas eu de manifestation, il n'y aura pas eu de défilé, tout ça, parce que le moindre des choses, vous voyez en Algérie, maintenant, les gens vivent dans la crainte. Alors, d'une minute à l'autre, on ne sait pas ce qui peut y arriver, vous voyez. Et avec ce qui s'est passé hier avec le Conseil de Révolution, les gens, ils attendent que ça soit vraiment un gouvernement civil et non militaire. Alors, il y a beaucoup d'autres qui pensent que ce soit le président de la République. Si le Dieu veut, d'ailleurs, pour nous, Algériens, ce sera Farhat Abbas.
Alors, les gens, dit cet Algérien anonyme, attendent que ce soit un gouvernement civil et non militaire. C'est toujours une dialectique durable, avec souvent un peu d'hypocrisie. Les militaires derrière les civils, ou bien passant au premier rang, il y en aura aussi.
Il y a le sentiment que tout cela va durer très peu de temps.
Boumediene, les militaires.
Que les militaires vont rester au pouvoir très peu de temps. On connaît la suite de cette histoire, bien sûr, aujourd'hui, puisque les militaires ne sont restés au cœur de la vie politique, bien entendu, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, avec toute une série de compétitions internes, de conflits, etc. Mais plus fondamentalement, ce passage, en fait, signifie la construction d'un État fort, autoritaire, bien sûr, sous Boumediene, avec l'omniprésence de ce qu'on appelait à l'époque, entre guillemets, la sécurité militaire, beaucoup plus que l'armée, d'ailleurs, hein, ce sont ce qu'on appelle les services.
Plus que la police, même.
Plus que la police et que l'armée, même à la limite, hein, ce qu'on appelle dans les pays arabes les mukhabarat. C'est-à-dire que c'est aussi un modèle égyptien, quelque part, hein, qui va s'installer. Et puis, la construction, la fabrication d'une économie extrêmement centralisée, avec la nationalisation des hydrocarbures en 1971, la réforme et révolution agraire de 1976, avec cette sorte de blocage, disons, de l'économie, notamment lorsque Boumediene va mourir et que Chedli va le remplacer.
Après 13 ans de règne.
Après 13 ans de règne, absolument. Et il y a, disons, une situation économique dans ce pays qui est très difficile, qui est une situation compliquée et difficile, d'autant que c'est un pays qui vit sur le plan économique essentiellement de la rente, des hydrocarbures, du gaz et du pétrole.
Mais sans que cette rente, on ait l'impression qu'elle est favorable au développement, parce qu'elle est mal investie. Il y a beaucoup de corruption aussi, beaucoup de pertes en ligne.
Il y a non, bien sûr la question de la corruption, mais plus fondamentalement, ce n'est pas tellement ça, à mon sens, à mon avis, le problème. C'est la fabrication, construction d'une véritable économie, d'une économie de marché se traduisant, par exemple, par la construction des petites et moyennes entreprises, qui aussi est une économie de production et pas simplement où l'on importe tout avec l'argent qui vient des hydrocarbures, du pétrole, mais surtout du gaz, bien sûr, que l'Algérie va devenir un très grand producteur mondial de gaz. Et donc, on a une situation où, lorsque Chedli arrive au pouvoir dans les années 80, et lorsque le prix des hydrocarbures, notamment le pétrole, va baisser, alors le système économique, dans ces années-là, dans ces années 80, va rentrer en crise. Et le système politique lui-même va entrer en crise, en même temps, d'ailleurs, c'est assez intéressant à observer cette concordance entre cette crise-là et une autre crise qui secoue et agite les pays socialistes de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a en URSS,
c'est
l'arrivée
plus
de Gorbatchev.
C'est plus une concomitance qu'une concordance des temps.
Concomitance, oui. Absolument. C'est l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir après la mort d'Andropov, la crise du système soviétique sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique, avec la question qui est posée dans ces pays de l'ouverture, du pluralisme, de la démocratie politique. Et en Algérie, dans les années 80, après la mort de Boumediene, eh bien, il y a le printemps berbère en 1980, c'est-à-dire la volonté, la recherche, disons, de reconnaissance d'une culture qui est celle de la berbérité. Il y a la construction de la Ligue algérienne des droits de l'homme dans les années 80, qui est très importante. Il y a les manifestations de femmes contre le code de la famille en Algérie en 1983.
Libération de certains leaders comme Ben Bella après des années de
prison.
Il y a
eu effectivement la libération d'Ahmed Ben Bella qui va sortir, disons, de sa résidence surveillée en 1980. Et puis aussi, il faut le dire, à cette époque-là, à côté de cette effervescence politique et démocratique au sens large, il y a l'apparition d'un nouveau courant politique idéologique qui est le courant de l'islam politique dans la foulée de ce qui se passe dans la guerre en Afghanistan avec, bien sûr, l'apparition des premiers maquis islamistes en Algérie, notamment conduite par un personnage qui s'appelle Bouyali et qui va tenir le maquis en Algérie à partir de 1983-84. Donc c'est une effervescence extraordinaire qui va exister tout au long de ces années 80.
Avec, en même temps, une évolution en profondeur de la société algérienne, car à cet égard, la différence avec Les années 60 commençant est éclatante. Un pays à l'époque complètement agraire, enfin essentiellement agraire, et avec l'exode rural en direction des villes, 50 ans plus tard, un pays complètement changé. Et c'est évidemment très important quand on considère, comme nous le faisons ce matin, l'histoire du FLN dans ses relations avec le pays.
Tout à fait, c'est une société qui va connaître des mutations extraordinaires en très peu d'années. Le sociologue, écrivain algérien Mostefa Lachraf parlait dans les années 60-70 de l'apparition des rurbains. C'est un mot qui signifie un mélange de mots entre ruraux et urbains, les rurbains. Ce mot de Lachraf s'applique parfaitement, à mon sens, à ce qui s'est passé dans les années 70-80 en Algérie. C'est-à-dire ce passage extrêmement rapide d'une culture paysanne, d'un monde paysan, car n'oublions pas que l'Algérie, jusque dans les années 60, était à 80-90% un monde paysan. Parce qu'on se fait, nous, ici en France, l'idée d'une Algérie très citadine, très urbaine, en voyant toujours les mêmes images d'Alger, d'Oran, etc. Mais en fait, pas du tout. L'Algérie était un pays profondément paysan. Et on assiste, dans les années 70-80, à un bouleversement, un basculement de cet univers, avec l'extraordinaire développement d'une culture citadine portée par ces anciens ruraux. Ça, c'est très important. L'explosion démographique, bien sûr, puisque l'Algérie, en 1975, connaît un taux de démographie équivalent à 6-7, c'est un des plus forts taux au monde de démographie, qui ne sera maîtrisé que 20 à 25 à 30 ans plus tard en Algérie. Mais à cette époque-là, il y a véritablement une explosion du taux de la démographie en Algérie.
Ce qui fait que une majorité d'Algériens n'a pas connu la guerre d'indépendance.
Ce qui fait que très très rapidement, très très vite, eh bien, lorsqu'on arrive dans les années 80-90, eh bien, l'Algérie est un pays très jeune, où près de plus de 60% de sa population n'a pas connu la guerre d'indépendance, donc n'a pas vécu avec cette mémoire-là, hein, d'autant que cette mémoire-là, eh bien, elle a été très mal transmise à travers les appareils scolaires, à travers les institutions officielles, qui a préféré véhiculer une culture historique faisant référence tout simplement à l'anonymat d'un peuple héroïque, hein, dépourvu, disons, de figures politiques de premier plan, puisque l'ensemble des grandes figures historiques, comme on le sait, comme on le disait tout à l'heure, avaient été reléguées dans l'obscurité après le passage à l'indépendance de 62.
Donc, alors il y a Benjamin Stora. Il y a le retour d'un certain nombre de leaders qui rêvent d'introduire de la démocratie, et puis il y a la menace et la montée du front islamique. Dans le premier camp, un homme comme Aït Ahmed ressurgit. Écoutez cette interview, ce regard qu'il jette sur les difficultés économiques de l'Algérie. C'est une interview recueillie en Suisse où il est exilé par France Inter le 6 octobre 1988. Il dit que, vous allez voir, que l'Algérie est au bord de la famine. Élément très important à l'origine de cette dramatique guerre civile des années 90.
Depuis quelques semaines, plusieurs régions d'Algérie sont au bord de la famine. Car depuis 2 à 3 mois, il y a un manque total de semoule en raison des pénuries et aussi en raison du trafic auquel se livrent les bureaucrates. C'est le système du parti unique qui a fait que la corruption atteint tous les domaines. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait un seul exemple au monde où le parti unique a réussi à gérer convenablement l'économie du pays. Chez nous, il a provoqué une véritable faillite économique et on peut dire qu'aujourd'hui, il gère la misère. Donc aussi longtemps qu'on ne veut pas entamer un processus de démocratisation, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une réussite quelconque.
Alors, rêve d'une démocratisation, ce n'est pas du tout la voie que l'Algérie va emprunter, en particulier le FLN dans ces années 90. Je voudrais que vous nous expliquiez, Benjamin Stora, comment cette guerre est arrivée. Parce que vu de France, ça a été assez mal compris dans cette sorte de brouillard que l'opinion française désormais mettait entre l'ancienne colonie et elle-même. Alors, il faut... est difficile de dire quand ça a commencé, en fait.
Alors, il faut resituer ce discours d'Hosni Aït Ahmed parce que il intervient au moment où se produisent en Algérie des émeutes urbaines extrêmement importantes. C'est ce qu'on appelle, disons, les soulèvements d'octobre 88 en Algérie, où il y a eu plus de 500 morts dans le pays. Et c'est la fin du système politique à parti unique, qui est d'ailleurs et qui se produit exactement quelques mois seulement avant la chute du mur de Berlin. Hein, donc c'est là aussi concomitant puisqu'on sait que l'Algérie s'était adossée, entre guillemets, au camp socialiste, dans sa conduite économique, idéologique, politique, etc. Et donc, ce discours-là, il signifie quelque part, là aussi, la fin d'une histoire qui avait commencé après l'indépendance de 62, celle de l'État autoritaire, celle du système du parti unique, avec absence de pluralisme politique. Or, après octobre 88, en 1989, il y a le pluralisme politique qui va exister en Algérie. Et aussi Naït Ahmed, Ben Bella et d'autres, jusqu'à Boudiaf, bien sûr, qui, comme on le sait, sera assassiné en juin 1992, eh bien, c'est le retour des leaders politiques, l'ouverture démocratique qui se traduit par la reconnaissance d'un certain nombre de partis politiques en Algérie. C'est le passage au multipartisme.
Avec une presse d'ailleurs plus libre et de remarquables journalistes.
Avec une presse très importante, la création de journaux qui vont exister, qui existent encore aujourd'hui, bien sûr. Je pense aux journaux comme El Watan, El Khabar, Liberté, Le Quotidien d'Oran, etc. Et qui vont naître à ce moment-là, c'est-à-dire dans cette effervescence politique et démocratique des années 88, 89, 90, 91. Mais en même temps, il y a la création aussi du Front islamique du salut, du FIS, qui va exister à partir de 1989-90, se présenter aux élections municipales de 1990 et réaliser un score extrêmement important. Et on le sait, bien sûr, il y a les élections législatives de décembre 1991, au premier tour de ces élections, où le Front islamique du salut réalise un score important, dans une situation où, il faut le rappeler, il y a eu quand même une grande majorité d'Algériens qui s'étaient abstenus de voter.
C'est toujours
l'abstention qui favorise la montée des extrêmes.
C'est un message contemporain. Refermons cette parenthèse promptement après avoir signifié cela et marquons que, de fait, même si beaucoup se sont abstenus, ceux qui ont voté en majorité pour le Front et c'est le moment où il y a une sorte de coup d'État contre les urnes.
Il y aura donc en janvier, comme on le sait, 92, l'interruption du processus électoral, l'assassinat de Mohamed Boudiaf, qui était revenu en Algérie. Je vais très vite, bien sûr, parce que là, c'est une page d'histoire très sombre de l'Algérie qui va s'ouvrir à ce moment-là.
Mais je voudrais que nous voyions les facteurs variés qui ont pu jouer dans le déclenchement de cette guerre si mal comprise en France. Il y a d'abord eu la nature du pouvoir politique en Algérie, cet appui sur les militaires qui contrôlent l'ensemble du pays jusqu'à l'insupportable. Mais il y a aussi, me semble-t-il, enfin je vous ai lu, l'impossibilité de faire fructifier la rente pétrolière et puis la montée de cette jeunesse que vous venez d'évoquer, avec plus profondément l'impression qu'il y a une sorte de crise identitaire dans les jeux entre la mémoire, l'histoire, le regard sur le passé.
Ben oui, bien entendu. Je pense que cette question a été mal perçue, effectivement, ici en France, puisque, comme on le disait tout à l'heure, une fois l'indépendance de l'Algérie acquise, bien, on a tourné la page en France sans véritablement comprendre les évolutions de l'Algérie indépendante, de ce qui s'est passé depuis les années 60-70. Or, précisément, le problème de la fabrication-construction du lien national algérien, eh bien, il y avait la levée de l'hypothèque coloniale, bien sûr, qui était un passage obligé, mais ça ne signifiait pas pour autant la fin de la définition de ce lien. Et en fait, tout commençait, fondamentalement. C'était une autre histoire où il fallait définir, dans cet immense pays qu'était l'Algérie, je ne vais pas ici donner des chiffres, mais l'Algérie avec le Sahara, c'est 5 fois la France, bien sûr, avec des disparités régionales très fortes.
Des poussées démographiques que vous venez d'évoquer.
Des poussées démographiques extrêmement importantes. Et donc, s'il y a eu cette construction d'un État extrêmement centralisé, c'était aussi dans la hantise, on l'a dit tout à fait au début de notre entretien, la hantise de la dispersion, de la fissure, de l'éclatement du pays. Ce qui fait que le nationalisme algérien s'était en grande partie construit sur ce qu'on pourrait appeler une sorte de centralisme politique jacobin, pour éviter l'éclatement du pays.
C'est ça qu'incarnait le FLN.
C'est ça qui incarnait à un moment donné, effectivement, j'allais presque dire plus l'État que le FLN, puisque la plupart des cadres du FLN, ensuite, ont été intégrés dans l'État.
Donc ça se confondait, de fait, ça se confondait.
Ça se confondait, surtout après 1965.
Un parti-État.
Un parti-État, absolument. Pardon, et on est donc dans une situation où les questions identitaires, c'est-à-dire la définition des langues, de la langue, c'est-à-dire le rapport, par exemple, entre langue arabe, arabisation, langue française, sa persistance.
Ça, c'est Boumediene qui avait installé l'arabisation à marche forcée dans l'enseignement.
Il y a eu effectivement dans les années 70 la volonté, qui est légitime d'ailleurs, de se réapproprier cette histoire à travers la langue, d'une histoire intérieure, nationale.
Et puis les berbères.
Et puis, bien sûr, la question de la berbérité qui est extrêmement importante en Algérie. Donc sur cette question linguistique, ce sont des questions identitaires et des questions politiques fondamentalement, qui vont exister et favoriser la montée de ceux qui se réclament d'une société exclusivement arabo-musulmane, donc débarrassée de toute influence étrangère. Et c'est cela en grande partie qui va expliquer aussi le succès du Front islamique du salut, notamment dans une jeunesse déboussolée, hein, privée de points de repère historiques. C'est quelque chose qui est tout à fait décisif. Donc cette question identitaire, c'est la redéfinition du lien national. Dans le fond, lorsque l'Algérie commence son travail de réappropriation de ce lien et de compréhension de ce lien au moment de l'effervescence politique démocratique des années 88-92, que va éclater cette guerre intérieure qui va être terrible. C'est-à-dire que seulement 30 ans après la guerre d'Algérie contre la France, eh bien, il y aura une seconde guerre, dans le fond, mais cette fois-ci intérieure, ce qui vous dit aussi à quel point ce pays a beaucoup souffert. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de morts dans la première guerre, guerre d'indépendance, énormément de morts.
Mais beaucoup aussi dans la
seconde. Et ensuite, seulement 30 ans plus tard, énormément de morts dans cette période, cette décennie sanglante que l'Algérie va traverser, grosso modo, pour aller vite, de 1991 à 2001, où il y aura entre 100 000, 120 000, enfin les chiffres ne sont pas... vous savez, il y a toujours des querelles, malheureusement, autour de la question des chiffres. Mais enfin, énormément de victimes, des déplacements de population, la fuite des intellectuels, bien sûr, beaucoup d'assassinats, hein, de journalistes, d'écrivains, d'hommes politiques, de syndicalistes, qui vont priver l'Algérie aussi, dans ces années 90, ben, qui vont priver l'Algérie, bien entendu, d'une grande partie de ses cadres, de ses forces vives, de son intelligentsia. Et ce pays, bien sûr, va avoir beaucoup de mal ensuite à continuer, disons, son histoire économique et politique.
Et quand Farès disait qu'il n'y aurait pas de Saint-Barthélemy, dans l'extrait que nous avons donné au début de cette émission, on voit à quel point l'histoire l'a dramatiquement contredit. Et pour avoir une idée de ces drames, écoutez donc cette correspondance d'Alger au lendemain du massacre du village de Bentala. C'est un village qui est environ à 15 km au sud d'Alger. Un massacre épouvantable dans la nuit du 22 au 23 septembre 1977. C'est une correspondance sur France Inter.
L'effet de surprise a été total. Les terroristes ont encerclé le village de nuit. Tous les accès ont été bloqués, certains même minés. Une fois leur cible isolée, les assassins ont procédé avec une violence inouïe. Ils ont plastiqué les maisons, ils ont égorgé les habitants, certains à l'intérieur même de leur domicile, les autres sur la place publique. Ceux qui tentaient désespérément de fuir ont été abattus par balles, arrosés d'essence et brûlés. Parmi les victimes, beaucoup de femmes et d'enfants. Selon certains rescapés, les sirènes d'alarme ont bien été actionnées afin de donner l'alerte. En vain, les terroristes ont pris leur temps pour accomplir leur forfait et n'ont pas été inquiétés. Pourtant, la région de Bentala, à Baraki, n'est pas particulièrement isolée. Elle n'est pas difficile d'accès et elle est surtout quadrillée 24 heures sur 24 par les forces de sécurité. Un quadrillage renforcé depuis le 29 août dernier, date à laquelle la localité voisine de Sidi Moussa avait vu 200 de ses habitants massacrés dans les mêmes conditions qu'à Bentala. Alger, Céline Battel, France Inter.
Il semble qu'Oradour n'a pas été pire.
Oui, absolument. Vous savez, Bentala est resté le symbole de cette tragédie inouïe. La photo de cette femme éplorée dans ce village a fait le tour du monde. On a appelé la Madone de Bentala. Bon, qui a eu le prix, je crois, le plus grand prix de la photographie.
Une Pietà. Une sorte de Pietà. Non, mais on peut dire les deux. Une Pietà avec son enfant.
Je ne sais plus. Enfin, c'était une photo, en tout cas, qui avait beaucoup marqué les esprits, qui était presque un des rares documents visuels de cette guerre sans visage et sans nom, une guerre invisible, puisque cette tragédie s'est déroulée à huis clos, en l'absence des caméras. Et à l'époque, n'existait pas Internet. Donc il n'existait pas la possibilité de filmer, de montrer des images, de les diffuser sur Internet. Tout ça n'existait pas à cette époque-là. C'est une période, dans le fond, qui est très proche de nous. On a l'impression que c'est déjà très loin, mais c'est encore très proche.
Ce sont les moments, d'ailleurs, où certaines photographies, certains clichés, tout à coup, on en a vu pour la guerre du Vietnam ou autrement, tout à coup viennent à symboliser un événement de ce genre. Par parenthèse, j'ai dit 1977, c'est naturellement 1997. Nos auditeurs auront corrigé de même, comme on dit.
Absolument. Oui. Mais la particularité de cette guerre intérieure algérienne, c'est qu'à la différence des guerres précédentes, comme celle du Vietnam, eh bien, elle s'est entièrement déroulée à huis clos, sans images, ou très très peu d'images. Les reporters, les journalistes n'ont pas pu pénétrer en Algérie pendant toute cette période, et ça a été une tragédie absolument épouvantable. Un an auparavant, n'oublions pas qu'il y a eu l'enlèvement et l'assassinat des moines de Tibérine en Algérie, ainsi que l'assassinat de Monseigneur Clavery, donc à Oran, c'était aussi une tragédie absolument terrible.
Et comme c'était des Français, là, l'opinion chez nous y a été encore plus sensible.
Là, les Français, effectivement, ont pris conscience de l'horreur qui se déroulait outre-Méditerranée et pas très loin de Paris, dans le fond, seulement à 2 heures de Paris. Et il y a eu, effectivement, des moments où il y avait peut-être la possibilité d'un basculement de l'État en Algérie. C'était les années, par exemple, 93, 94, 95, des années de menaces contre les intellectuels. Certains ont été obligés de partir, de se cacher, de s'exiler. C'était une période très, très difficile, une période très, très dure à vivre. C'est aussi, disons, ce moment où la nature du pouvoir algérien, on a le sentiment peut-être que tout peut basculer. Mais en même temps, et c'est ça qui est absolument incroyable, lorsque les islamistes en 94 lancent la grève de l'école, eh bien, les Algériens massivement envoient quand même leurs enfants à l'école. C'est ce qui était le signe, à mon sens, le plus important, que dans le fond, cette entreprise d'éradication sur le plan culturel ne pouvait pas réussir.
Est-ce qu'aujourd'hui, Benjamin Stora, vous pensez que la mémoire de cette guerre, qui est évidemment beaucoup plus forte en Algérie que parfois dans nos esprits, nous qui avons été séparés d'elle par beaucoup de méconnaissance, est-ce que cela pèse beaucoup sur l'idée que l'Algérie se fait de son passé, sur la place du FLN, sur la pérennité aussi de ce pouvoir un peu fantomatique d'un Bouteflika?
Ce qui pèse sur cette histoire, cette société, c'est la proximité de deux guerres, en fait, fondamentalement. La guerre d'indépendance des années 54-62, cette sorte, entre guillemets, de guerre civile intérieure des années 91-2001, va marquer considérablement les esprits, de sorte que lorsque le printemps arabe, comme on dit aujourd'hui, éclate, en 2011, c'est-à-dire très peu de temps après, il y aura cette réticence, cette interrogation, cette réflexion qui existe, qui est réelle,
c'est pour
à
ça
l'intérieur
vous pensez
de la société
que...
algérienne.
C'est pour ça qu'il y a une résistance, contrairement à ce qui s'est passé dans des pays voisins.
La force, la profondeur, l'ampleur du traumatisme vécu à l'intérieur des familles, après, encore une fois, l'expérience démocratique, l'effervescence démocratique en Algérie, qui a été réelle entre 89 et 92, va inciter quand même un certain nombre d'Algériens à réfléchir avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Ce qui ne signifie pas que les aspirations, les désirs, les besoins démocratiques n'existent pas en Algérie, pas du tout. Ils sont très forts, ils sont très présents, très puissants. Mais le poids de deux événements tragiques, très près l'un de l'autre, il faut bien se rendre compte de cette proximité dans la temporalité historique.
Les pères et les fils.
Les pères et les fils, absolument. Deux guerres, en fait, qui sont très proches l'une de l'autre, fait qu'il y a énormément d'hésitation à se lancer dans la bataille, que le sentiment, le désir de paix est très fort dans la société. C'est ce qui va faire, d'ailleurs, paradoxalement, on arrive près de l'actualité, bien sûr, va faire le succès
nous ne
des
l'avons
premières
jamais,
campagnes.
Nous ne l'avons jamais quitté,
mais nous ne l'avons jamais quitté, absolument.
Le succès des premières campagnes.
Des campagnes d'Abdelaziz Bouteflika, lorsqu'il va se présenter en 1999 et ensuite en 2004 ou autre.
Sur quelle thématique ?
Il se présente comme le candidat de la paix, en fait. Comme celui qui veut sortir l'Algérie de la guerre, il va acquérir cette sorte, entre guillemets, de popularité, même si les choses ne changent pas sur le plan politique, avec, on le sait, la place de l'armée, des services, du FLN, etc. etc. Néanmoins, les gens ont le sentiment qu'il y a un retour progressif à cette sorte de normalisation, de paix, parce qu'ils sortent d'une sorte de cauchemar, en fait, fondamentalement. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre les attitudes de cette société algérienne si on ne la met pas en rapport avec la durée, la profondeur, disons, des tragédies intérieures qui ont traversé toute cette histoire et qui sont très très proches de nous.
Mémoire et oubli, amnésie, amnistie, tout ça est au cœur de la société et de l'évolution d'ailleurs du FLN.
C'est au cœur de la société algérienne, bien entendu, parce que lorsque Abdelaziz Bouteflika a proposé par exemple une loi d'amnistie en Algérie, ça a suscité des débats extrêmement vifs dans ce pays, des débats très importants. Fallait-il oublier pour vivre ? Fallait-il, vous savez, c'est cette fameuse problématique qu'on trouve à l'œuvre dans beaucoup de pays, l'Espagne franquiste, l'Argentine, le Chili, le Rwanda, etc.
Déjà chez les Grecs anciens, après la dictature des 30, on avait décrété l'oubli et ceux qui évoqueraient les événements antérieurs alors que c'était démocratique seraient punis.
Eh bien, on retrouve toujours, dans le fond, au cours de cette histoire, même la plus récente, on retrouve toujours ce même type de problématique, ce même type de problème, en fait, fondamentalement. Et l'Algérie a été confrontée à cette question-là.
Elle rebaptise les rues, elle redonne mémoire des grands combattants de la guerre de l'indépendance.
Alors, il y a ce traumatisme de cette guerre si proche, des années 90, et il y a, effectivement, le rapport à la guerre d'indépendance, le problème du rapport à la France, qui est un rapport difficile, complexe, puisqu'on le sait, le nationalisme algérien s'est légitimé en grande partie dans le processus d'affrontement et de séparation avec la France. C'est un facteur central de légitimité et d'existence des partis politiques, mais aussi de l'État, disons, en Algérie. Alors, pour se débarrasser, entre guillemets, bien sûr, de cette attitude, etc., il y a eu toute une série de rencontres et de rapprochements avec les dirigeants politiques français, dont il faut dire rapidement quelques éléments, bien sûr, parce que c'est important dans l'histoire algérienne. Il y a eu notamment les visites de Jacques Chirac en Algérie, avec la possibilité d'un traité d'amitié.
Très bien sûr.
Qui avait été très bien reçu à l'époque, en 2003. Il y a eu l'année de l'Algérie en France, bien entendu, en 2003. Et puis tout cela a été remis en question en 2005, lorsque, là, comme on le sait, le Parlement français avait voté cette fameuse loi de 2005 reconnaissant des mérites à la colonisation. Et là, tout a volé en éclats. Et donc, à nouveau, les rapports se sont tendus sur le plan mémoriel. Il y a eu une extrême tension entre la France et l'Algérie sur les questions de mémoire qui, progressivement, sont revenus, disons, sur un aspect, disons, plus normalisé depuis ces derniers mois.
Eh bien, puisque nous achevons notre conversation sur l'évolution du FLN, qui est à la fois toujours le même et qui est néanmoins connu de... jamais tout à fait le même du tout à fait un autre, puisque nous arrivons à la fin de cette conversation. Je voudrais donner la parole, comme ça a été le cas au début, à Ahmed Ben Bella, le premier président de la République algérienne, qui, à la fin de sa vie, s'exprime de la sorte dans l'émission À voix nue, produite par Séverine Labat sur France Culture. On est le 5 mai 2005. Écoutons donc Benjamin Stora, le regard qu'il jette avec le recul sur le FLN.
J'ai dit déjà, ça va peut-être faire que c'est beaucoup dans l'Algérie, mais je dis sincèrement, moi je pense que le FLN a été une énorme école. La preuve, c'est qu'il y a 35 FLN, vous savez, ce que nous avons fait en Algérie était un instrument formidable pour la période de libération nationale. Mais le FLN dans le Vietnam, on a 35. En tout, on a compté dans le monde. C'est vraiment une vision historique. Je pense que le FLN, c'est une énorme chose, une énorme école, mais qu'elle a terminé sa fonction. Dès l'instant où nous sommes rendus, disons, indépendants, elle a terminé sa fonction. Et que nous ne devons pas, par respect justement à ce sigle extraordinaire qui est devenu mondial, etc., un jour, il va falloir créer un grand monument et dire... Le FLN, c'est ça, et tous nous inclinons devant ça. Et que nous n'avons le droit maintenant de se dire « je suis le FLN », n'est-ce pas, hein? Voilà ce que je pense. Un jour, et ce jour-là, vraiment, ce serait une grande joie pour moi. C'est que tous les Algériens se disent « nous n'avons le droit de mettre cette tête ». Il faut le dire parce qu'il est autre chose, le FLN, sincèrement. C'est une chose extraordinaire qui appartient à tout un peuple, mais pas seulement à tout un peuple, à énormément de peuples. Par respect, il faut le rendre à ces peuples-là. Et celui qui veut faire de la politique choisit un sigle autre que le FLN.
C'est une vision, évidemment, celle de Ben Bella, qui est d'un enthousiasme qui parfois me paraît prendre quelques libertés avec l'histoire de ce FLN telle que nous l'avons recréée ce matin, non ?
Oui, je ne sais pas s'il y a eu 35 FLN qui se sont créés dans le monde, je ne crois pas. Mais il y a quelque chose quand même d'intéressant et important dans ce qu'il dit, puisque nous terminons par sa parole. Il est décédé quelque temps après, d'ailleurs, Ahmed Ben Bella. Il est décédé l'an dernier. C'est le fait que le FLN, dans le fond, avait rempli sa mission historique et qu'il fallait passer à une autre histoire.
Et nul n'a le droit maintenant de dire « je suis le FLN ».
Voilà. Et il a cette légitimité, lui, pour le dire, évidemment, puisqu'il appartient à ce qu'on a appelé ses chefs historiques, hein, de ceux qui avaient lancé l'insurrection de novembre 54. Mais il a, ce mérite de dire, dans le fond, nous ne pouvons pas toujours nous abriter derrière ce sigle pour continuer cette histoire, parce que nous sommes rentrés dans d'autres défis, dans d'autres histoires, que l'Algérie maintenant est certes une grande puissance méditerranéenne, mais elle doit aussi tenir compte de son environnement régional. Je pense à ses rapports avec le Maroc, on n'en a pas parlé, mais ce sont des choses très importantes. Le rapport avec la France, le rapport avec l'Europe, le rapport avec le reste du monde arabe aussi, bien sûr.
Avec l'islam menaçant au
avec,
sud.
Bien entendu,
l'islamisme menaçant au
l'islam
sud.
Politique, bien entendu. Donc il y a puis la modernisation de l'économie, la place de la jeunesse, la place des femmes dans la société aussi, ce sont des questions importantes, la question de la berbérité. Bref, nous sommes dans une autre époque, nous sommes dans un autre stade. Et je crois qu'il a eu raison de dire cela. Ces derniers discours étaient dans cette tonalité-là. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à changer d'époque, à avoir la force soi-même peut-être de s'arracher à une histoire déjà ancienne pour essayer d'en bâtir une autre nouvelle, et qui tiennent compte des réalités politiques nationales et internationales.
Donc le FLN, c'est le même ou c'est un autre? Pas tout à fait le même, pas tout à fait un autre?
Ah, c'est plus tout à fait le même quand même, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, déjà les dirigeants historiques avaient en grande partie été entre guillemets éliminés au lendemain de la guerre. Puis ensuite, il y a eu les années Boumdienne, les années Chedli, les années 90 qui ont été terribles. Mais il y a eu quand même en Algérie près de 7 présidents qui se sont succédés depuis l'indépendance. C'est beaucoup. Vous savez, quand on voit des pays où il n'y a que 2 présidents, par exemple, en 30 ou 40 ans, je pense au reste du monde arabe, à l'Algérie, il y a eu 7 présidents qui se sont succédés en l'espace d'une cinquantaine d'années, ce qui prouve toute la complexité de l'histoire de ce pays.
6 enfants, si je calcule bien.
6, oui, absolument, peut-être davantage qu'en France, dans des conditions, bien sûr, qui ne sont pas du tout identiques, qui ne sont pas les mêmes, mais ce qui prouve, bien sûr, qu'il y a aussi, en Algérie, eu des mutations, il y a eu des changements, mais la société algérienne d'aujourd'hui, à mon avis, veut plus, davantage. C'est-à-dire veut moderniser, rajeunir et changer...
Rajeunir, vous voulez dire.
Et changer le type, disons, de fonctionnement du système politique et étatique.
Pardonnez l'impertinence.
Oui, tout à fait, pas de problème.
Bien, bien. Écoutez, merci beaucoup, Benjamin Stora. Nous allons voir si ce FLN qui a tant changé continuera à réussir à perdurer dans sa position d'expression politique d'une réalité nationale. Alors j'ai envie il s'impose que je rende hommage à plusieurs de vos livres. Peut-être celui que je préfère, j'ai le droit.
C'est le mien aussi, c'est mon préféré.
Ah ben nous nous rencontrons, je ne savais pas. C'est les guerres sans... Vous dites ça parce que vous voyez ce que je le brandis devant le public du Salon du Livre. Les guerres sans fin, un historien, la France et l'Algérie. C'est paru chez Stock en 2008, qui a été réédité de la collection plurielle en 2013. C'est une sorte d'égo-histoire à certains égards. Vous mêlez l'histoire de votre propre itinéraire qui est passionnant.
Oui, j'ai suivi cette histoire à travers aussi mes propres combats personnels.
Vous avez publié aussi une histoire de l'Algérie depuis l'indépendance, à la découverte en 1994, un livre qui a été réédité plusieurs fois.
Plusieurs fois, oui. Il y a eu, je crois, 6 ou 7 rééditions.
Rien que ça.
Oui, oui, sur ce petit livre-là, oui. Comme l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de l'Algérie coloniale.
Et après notre émission, les rééditions vont se précipiter. Vous avez publié également La guerre invisible, l'Algérie, années 90, aux presses de Sciences Po en 2001. Et vous avez tenu, et moi aussi, à rendre hommage au livre très important de Gilbert Meynier, avec lequel vous avez travaillé, qui s'appelle « L'histoire intérieure du FLN ». Là, c'est la préhistoire. 1954-1962, paru chez Fayard, et l'ouvrage auquel il ne faut pas cesser de se référer. Et puis, vous avez également fait des documentaires, très importants, en particulier avec Jean-Michel Meurice, « Algérie, été 62, l'indépendance aux deux visages », qui a été diffusé en 2002. Tout ça est disponible en DVD.
DVD, non ? Puis « Conversation avec les hommes de la révolution algérienne », qui est un documentaire de 3h30, qui c'est un grand entretien avec 10 acteurs de la guerre d'Algérie, mais vu du côté algérien, qui a été diffusé sur la chaîne Histoire en 2003-2004.
Très bien, merci pour ces compléments. Samedi prochain, vous n'avez pas été sans observer, j'en suis sûr, Benjamin Stora, comme tout le monde, sans observer les turbulences qui agitent, qui concernent la possession de plusieurs de nos grands quotidiens, avec le rôle d'un certain nombre d'entrepreneurs. Eh bien, nous parlerons des capitalistes et de la presse, 2 siècles et beaucoup d'argent. Je recevrai Patrick Evenot. C'était Concordance des temps. printemps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Hors de nos murs. Aujourd'hui, Pierre Monsigny et Stéphane Poitevin, avec Véronique Jolivet pour les archives INA, et naturellement avec l'aide précieuse de nos chers documentalistes de Radio France, auxquels je ne me lasse pas de rendre hommage.